Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce jeudi 29 septembre 2020. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Si les États-Unis se soucient des Iraniens, ils peuvent prêter attention au fait que des milliers d'enfants iraniens sont morts à cause des sanctions qui sont imposées, notamment les enfants souffrant de la maladie EB, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Le secrétaire général d'Assaï Bahlal-Haq d'Irak a dénoncé l'immixtion du président français dans les affaires intérieures de l'Irak. Et le Mali se désolidarise des sanctions de la CEDEAO contre la Guinée. C'était les principaux titres. En voici le journal. Lors d'une interview accordée au principal réseau de radiodiffusion des États-Unis, NPR, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, évoquant la mort tragique de Mahsa Amini, a déclaré: les Iraniens sont émotifs et ont des sentiments purs. Quelques heures après l'incident, ils ont manifesté pacifiquement et maintenant tout le monde attend la fin de l'enquête du système judiciaire. Mais il y a eu des éléments extérieurs comme des chaînes satellites et certains sites web qui ont encouragé les manifestants à descendre violemment dans les rues. C'est pourquoi les manifestations ont dégénéré et se sont transformées en émeutes, a dit le ministre iranien des Affaires étrangères, ajoutant qu'il y a bien sûr des manifestants qui expriment ce qu'ils demandent de manière pacifique. Mais maintenant, la plupart de ces personnes dans les rues sont guidées par des réseaux de télévision dirigés depuis Londres. Se référant à l'organisation terroriste Mujahideen Khalr, OMK, qui a tué 17 milliers d'Iraniens, M. Amir Abdollahian a souligné que les États-Unis et quelques pays européens ont provoqué des émeutiers. L'Iran n'est pas un pays dans lequel les coups d'État ou les révolutions de couleur auront lieu. Les Iraniens sont compréhensifs, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères en soulignant qu'il y a une différence entre protestation, perturbation et émeute. En réponse à la question du journaliste de NPR sur la coupure d'Internet en Iran, il a déclaré que les responsables iraniens ont l'obligation de maintenir la paix et la sécurité des Iraniens. Si les manifestations étaient pacifiques, dit-il, on les laisserait faire librement. Mais s'ils veulent incendier les ambulances ou voler de l'argent aux banques, alors la police n'a d'autre choix que de réagir proportionnellement. Qu'avez-vous fait lorsque des gens ont tenté de s'emparer du Congrès? N'avez-vous pas bloqué l'accès de votre président à Twitter? Était-ce un acte démocratique ou était-ce pour des raisons de sécurité nationale? S'est-il interrogé. Il est à noter que le département d'État américain a récemment prétendu qu'il va lever certaines interdictions de commerce avec l'Iran afin de permettre aux entreprises technologiques de fournir des services d'accès à l'Internet aux Iraniens. Dans ce droit fil, M. Amir Abdollahian a déclaré que si les États-Unis se soucient des Iraniens, ils peuvent prêter attention au fait que des milliers d'enfants iraniens sont morts à cause des sanctions qu'ils ont imposées, notamment les enfants souffrant de la maladie EB. Selon le ministre des Affaires étrangères, les États-Unis ont refusé de fournir un seul vaccin contre la COVID-19 à l'Iran et ont également fait pression sur d'autres pays pour qu'ils ne le fassent pas sous prétexte de sanctions américaines. Le général de brigade Mohammad Pakpour, commandant des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a décrit le 28 septembre certains détails de la récente opération des forces terrestres du CGRI contre des terroristes anti-iraniens basés dans la région autonome du Kurdistan irakien qui a commencé mardi 27 septembre. 73 missiles balistiques sol-sol et des dizaines de drones destructeurs ont atteint avec précision les positions et les lieux de rassemblement des terroristes, a déclaré le général Pakpour le mercredi 28 septembre. Dans la nouvelle phase de l'opération, nous avons frappé des cibles appartenant à des groupes terroristes anti-iraniens qui étaient dispersés dans 42 endroits et dans certains cas à 400 km les unes des autres, a-t-il indiqué. Le commandant des forces terrestres du CGRI a souligné la nécessité pour les autorités de la région autonome du Kurdistan irakien de prendre des mesures adéquates pour interdire sur son territoire la présence et les activités de tous les groupes terroristes actifs contre les intérêts de la République islamique d'Iran. Le général Pakpour a annoncé que l'opération des forces du CGRI se poursuivrait jusqu'au désarmement complet et sans condition de tous les groupes terroristes et des groupes séparatistes qui s'installent depuis des années dans la région autonome du Kurdistan irakien, non loin de la frontière de la République islamique d'Iran. Le secrétaire général d'Assaïb Ahl al-Haq a dénoncé l'immixtion du président français dans les affaires intérieures de l'Irak pour maintenir l'actuel premier ministre irakien à son poste. Raïs al-Ghazali, secrétaire général d'Assaïb Ahl al-Haq, a révélé dans un discours que le président français Emmanuel Macron avait contacté les dirigeants de la coalition des partis chiites pour les convaincre de maintenir à leur poste une certaine personnalité politique, en l'occurrence le premier ministre irakien. Il a déclaré que Macron est intervenu pour maintenir Mustafa al-Kazemi au poste de premier ministre irakien. La France doit corriger cette position avant que ses contre-coups ne lui tombent pas dessus, a-t-il averti. Évoquant les développements récents en Irak et le dévoilement officieux d'une nouvelle coalition entre le cadre de coordination des chiites et les partis kurdes et sunnites, il a souligné que la coalition Adar al-Dawla, administration du pays, a été formée après la démission de la faction Sadr du Parlement et le but de cette coalition est de parvenir à un accord pour que le futur gouvernement réussisse. Dans une autre partie de sa déclaration adressée à Murtada Sadr, le chef du mouvement Sadr, le secrétaire général de l'Irak, Assaïb Ahl al-Haq, a déclaré « Les portes du cadre de coordination sont toujours ouvertes ». Il a également demandé à Murtada Sadr de présenter ses plans pour la réussite du processus politique irakien et la formation du gouvernement du pays. Sortir de l'impasse politique nécessite le dialogue et sans dialogue, la crise ne peut être résolue, a-t-il souligné. Le Mali a décidé mercredi soir, 28 septembre, de se désolidariser des sanctions prises à l'encontre de la République de Guinée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lors d'un sommet extraordinaire tenu le 22 septembre à New York, aux États-Unis, a annoncé le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement du Mali. Le gouvernement de la transition a pris connaissance du communiqué final du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu le 22 septembre 2022 à New York sur la situation au Mali et en Guinée, a déclaré Maïga. En effet, les dirigeants ouest-africains réunis jeudi 22 septembre courant à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, ont décidé une série de sanctions visant certains responsables guinéens. Le gel des avoirs financiers et l'interdiction de voyager sont les sanctions ciblées à l'encontre des personnes et groupes de personnes ou encore les membres des autres institutions de la transition et toute autre personne cherchant à empêcher le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée dans un délai raisonnable, avait indiqué la CEDEAO. Maïga souligne que compte tenu de la solidarité et de la fraternité entre le Mali et la Guinée, le gouvernement de la transition décide de se désolidariser de toutes les sanctions illégales, inhumaines et illégitimes prises à l'encontre de la République sœur de Guinée et ne leur réservera aucune suite, d'adopter si nécessaire des mesures pour assister la République de Guinée, afin d'annihiler les conséquences de ces sanctions inutiles contre le peuple et les autorités de la Guinée. Le gouvernement de la transition souligne que l'objectif de la CEDEAO est d'améliorer les conditions de vie des populations et non d'adopter des sanctions contre-productives les affectant, a-t-il poursuivi. En outre, le gouvernement du Mali note que les transitions politiques ne résultent que de la mauvaise gouvernance. En conséquence, les autorités de transition méritent d'être accompagnées par la CEDEAO pour mener des réformes politiques et institutionnelles qui contribueraient à renforcer la bonne gouvernance et la stabilité. Enfin, le gouvernement malien exprime sa solidarité indéfectible et son ferme soutien au peuple frère et au gouvernement de la République de Guinée dans leur engagement à jeter les bases d'une refondation de l'État guinéen à travers des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à un retour apaisé, crédible et sécurisé à un ordre constitutionnel normal. Le colonel Abdoulaye Maïga affirme toutefois que le gouvernement de la transition reste ouvert dans le respect mutuel et dans le cadre du panafricanisme à toutes les initiatives sincères de recherche de solutions aux défis relatifs à la stabilité, à la paix et à la sécurité de notre sous-région. Alors que le Soudan entend étendre ses relations avec la Russie, les États-Unis semblent furieux. Le mardi 27 septembre, l'ambassadeur américain au Soudan a mis en garde contre les conséquences si le pays d'Afrique du Nord-Est autorise l'établissement d'une base militaire russe sur la côte de la mer Rouge. Il y a des informations selon lesquelles la Russie essaie de mettre en œuvre l'accord qu'elle a signé avec le président déchu Omar el-Bashir en 2017 pour établir une base militaire le long de la mer Rouge, a indiqué John Guthrie dans un entretien avec le journal Tayar. L'ambassadeur américain met en garde le Soudan que si le pays permettait l'établissement de cette base, cela isolerait le Soudan de la communauté internationale et saperait les intérêts du pays. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Double explosion de Beyrouth. Le réseau d'Israël se remue. En réaction à la demande des familles et des victimes et des détenus du dossier des explosions du port de Beyrouth en 2020, qui exigeait le limogeage de Tahrir al-Bitar de son poste d'enquêteur judiciaire dans ce dossier, le juge Sohail Abdout, président de la Cour suprême du Liban, a annoncé la semaine dernière qu'il nommerait un juge suppléant pour cette affaire. Mais lors d'une récente réunion, les membres de la Cour suprême n'ont pas pu se mettre d'accord sur les candidats à ce poste de juge suppléant pour des raisons politiques. Le juge Sohail Abdout a rejeté lui-même la candidature de plusieurs juges, apparemment en raison de leurs appartenances politiques. Or, la presse libanaise souligne que la plupart de ces personnes n'avait aucune dépendance politique. Par ailleurs, des sources bien informées soulignent que ces derniers jours, les ambassadeurs de plusieurs pays occidentaux à Beyrouth s'immiscent dans ce dossier et essaient d'influer sur les décisions de la justice libanaise. Dans ce cadre, l'ambassadeur d'Allemagne au Liban a rencontré ces derniers jours le président de la Cour suprême, Sohail Abdout, au sujet de la nomination d'un juge suppléant pour le dossier des explosions du port de Beyrouth en 2020, en mettant en garde contre la nomination d'un juge qui pourrait s'opposer au point de vue du juge Tahrir al-Bitar, soutenu par les puissances occidentales. Il a même menacé le Liban de sanctions. Il a dit que si la Cour suprême libanaise nommait un nouveau juge suppléant pour ce dossier, la communauté mondiale serait obligée d'exiger l'internationalisation de l'enquête. Des sources informées au sein de la justice libanaise soulignent que plusieurs ambassadeurs occidentaux ont menacé Sohail Abdout d'imposer des sanctions au Liban si la Cour suprême ou d'autres institutions du pays interviennent d'une manière que les enquêtes menées par leurs favoris, le juge Tahrir al-Bitar, soit perturbé. Selon le journal libanais Al-Akhbar, le rôle que l'Allemagne joue dans cette affaire soulève de nombreuses questions et certains milieux révèlent que l'Allemagne y intervient au nom des États-Unis et de l'Union européenne. À Beyrouth, des voix s'élèvent pour mettre en garde contre ce mécanisme en évoquant le rôle douteux que l'Allemagne avait déjà joué dans l'affaire de l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri. À l'époque, l'Allemagne et d'autres pays occidentaux ont instrumentalisé certains partis politiques du pays pour empêcher une enquête indépendante afin que la Syrie, le Hezbollah et d'autres courants politiques du Liban soient accusés d'implication dans l'assassinat de Rafik Hariri. Comme en 2005, le but de l'Occident est aujourd'hui de transformer le procès ouvert par la justice libanaise sur les explosions du port de Beyrouth en 2020 en un acte d'accusation contre la résistance libanaise. Autrement dit, les Occidentaux veulent renouveler leur ancien scénario de l'assassinat de Rafik Hariri par le biais de l'internationalisation des enquêtes. Or, comme dans le procès de l'assassinat de Hariri, cela risque d'empêcher que l'affaire ne soit jamais élucidée. Des sources informées ont rapporté au journal Al-Akhbar que la réalisation de ce nouveau projet de l'Occident a été confiée pour le moment à l'ambassadeur allemand en liaison étroite avec un employé allemand du Bureau des Nations Unies à Beyrouth. Cet employé aurait été particulièrement connu pour son hostilité avec le Hezbollah et la résistance libanaise, ces derniers dénonçant ses liens secrets avec le régime sioniste.
Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau ici à Téhéran. Aujourd'hui, notre programme débat propose le sujet de la Tunisie et des terroristes tunisiens qui sont partis en Syrie pour rejoindre les troupes de Daesh. Aujourd'hui est donc un jour historique. Cette semaine, le gouvernement tunisien a bien reconnu que le terrorisme est contre la Constitution, contre l'État tunisien. Une première quand on pense aux pays africains touchés par le terrorisme, bien que les familles l'aient énormément réclamé, que seule l'Algérie se battait fermement et officiellement contre les membres du Daesh. À l'heure actuelle, les Tunisiens ont fait un grand pas et les familles des victimes et des terroristes soutiennent le gouvernement tunisien. Nous avons préparé un reportage. Après, par la suite, nos deux invités viendront et nous parleront sur le plateau par le biais des services téléphoniques. Et nous débattrons donc sur le sujet. Là, tout de suite, je vous propose donc le reportage.
En Tunisie, Rached Granouchi, interrogé par le pôle judiciaire antiterroriste. La police tunisienne a interrogé dans la nuit de mardi à mercredi le principal chef de l'opposition et ancien président du Parlement, Rached Granouchi, au sujet d'accusations de terrorisme qui sont, selon lui, politiquement motivées. Il doit comparaître de nouveau mercredi devant le pôle judiciaire antiterroriste. Une autre personnalité, Denarda, l'ancien premier ministre Ali Larayed, a également été convoqué lundi. Il a été interrogé dans la soirée et la nuit de lundi est placé en détention. L'affaire des expéditions de terroristes refait surface après la chute de Zine al-Abidine Ben Ali en 2011. Des milliers de Tunisiens avaient rejoint les rangs des organisations terroristes, notamment Daesh en Irak, en Syrie et en Libye. Le parti Ennahda, pilier des gouvernements qui se sont succédés au pouvoir depuis 2011, est soupçonné d'avoir facilité le départ de ces terroristes vers les zones de conflit, ce que le mouvement proche de l'OTAN dément catégoriquement. Plusieurs personnes, pour la plupart des parents des terroristes tunisiens retenus à l'étranger, ont manifesté devant le siège de la brigade antiterroriste où se déroule l'interrogatoire de plusieurs personnalités soupçonnées d'implication dans l'embrigadement et l'envoi de terroristes tunisiens à l'étranger. Ils ont appelé à servir contre ces responsables en accélérant les auditions et ont demandé à rapatrier leurs enfants ainsi que les membres de leur famille. Le président de l'Association des Tunisiens retenus à l'étranger, Mohamed Iqbel Ben Rejeb, a assuré qu'il détient les dossiers de 22 enfants et 11 femmes retenus en Libye en attente de rapatriement depuis plus de 5 mois, alors que le nombre s'élève à 150 enfants et des dizaines de femmes vivant dans le camp de réfugiés du nord-est de la Syrie.
Donc voilà notre sujet du débat. Nous avons deux invités aujourd'hui, Monsieur Luc Michel, géopoliticien en direct de Bruxelles, et Madame Essar Midani, experte des questions politiques à Damas. Bonjour Madame, bonjour Monsieur.
Bonjour à vous, bonjour Madame Midani.
Bonjour à vous et à Monsieur Luc Michel, et merci de votre invitation.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir tous les deux sur nos plateaux. Alors aujourd'hui, un sujet qui doit faire plaisir, les terroristes tunisiens. Ce n'était pas un sujet caché, puisque les Algériens, à plusieurs reprises, se sont fait attaquer par les daéchistes au niveau des frontières tunisiennes-algériennes. Ils ont également récupéré énormément de matériel militaire au niveau de leurs frontières. Donc, on savait qu'il y avait un problème en Tunisie concernant donc, la présence terroriste, le fait que les terroristes venaient directement de la Tunisie. On en parlait par rapport à la France, par rapport à l'Union européenne, mais rarement les sujets de l'Afrique du Nord étaient concernés concernant la Syrie. Madame Midani, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui est une sorte de semaine historique parce qu'il y a un pas vers l'antiterrorisme qui s'est fait aujourd'hui par le biais de la Tunisie?
Et pour moi, c'est un grand pas, effectivement, de fait de traduire devant la justice et devant la cour terroriste les têtes des frères musulmans en Tunisie, notamment Rached Ghannouchi et ses compères. Et en effet, en Syrie, il y avait des dizaines de milliers, quelques milliers, je peux dire dizaines de milliers, un peu plus, de terroristes tunisiens qui ont sévi et qui ont coupé des têtes, qui ont sévi vraiment de manière horrible en Syrie. L'État syrien les connaît depuis toujours. On a immédiatement d'ailleurs, après la 2011-2012, la Tunisie a été, rappelons-le quand même, le pays qui a hébergé la conférence des soi-disant amis de la Syrie, qui est tous les pays de l'OTAN plus des alliés qui voulaient faire chuter la Syrie et détruire la Syrie. Donc, en fait, dès ce moment-là, la Tunisie a rompu ses rapports avec la Syrie et a dépêché donc des milliers de terroristes qui ont transité par la Turquie. Et ils sont venus en Syrie. Bien sûr, en Syrie, nous avons beaucoup de prisonniers, des prisonniers de daéchistes et al-Nusra tunisiens qui sont venus. Il y a malheureusement aussi parmi eux, il y a des jeunes femmes qui ont 16 ans, 15 ans, qui avaient à l'époque 15 ans, 16 ans, qui ont comparu d'ailleurs devant la télévision en pleurant, en disant que de toute façon, elle a été, ces jeunes femmes ont été invitées. En fait, elles ont accompagné leur mari et qu'elles sont devenues, elles se sont pas converties à l'islam, mais elles ont découvert l'islam. Intégristes, elles se sont voilées et pour répondre justement à cet appel de djihad qu'elles sont venues s'engager en Syrie. Et donc c'était soi-disant contre l'État païen, contre l'État, mais même parmi eux, certains pensaient qu'ils menaient le djihad à Jérusalem pour la libération de la Palestine. Ils pensaient quand ils étaient en Syrie, ils pensaient qu'ils étaient déjà en Palestine et qu'ils libéraient la Palestine.
Merci.
Donc,
Madame
tout un
Midani.
Tas d'histoires comme ça. Je voudrais, permettez-moi juste de dire, ceci dit, ajouter aux attentats terroristes qui étaient effectivement menés et de manière systématique contre la population syrienne, mais y compris contre les mosquées et contre des imams de l'islam, hein, comme El-Bouti, qui sont très connus, mais qui sont très connus pour un islam rationnel et le vrai islam. En fait, donc, ils étaient aussi partie prenante dans l'attentat, l'assassinat de ce grand imam.
Merci beaucoup, Madame Midani. Monsieur Luc Michel, comme indiqué par Madame Midani, donc c'est un peu une sorte de semaine historique en voyant un pays d'Afrique du Nord, autre que l'Algérie, s'opposer fermement à l'extrémisme, mais surtout au rôle joué par des politiciens véreux qui ne cherchaient qu'à manipuler la population de masse, parce qu'on parle quand même de manipulation de l'esprit. Les familles ont manifesté, montrant bien qu'ils sont opposés en fait à la situation, à voir leurs enfants rentrer dans l'extrémisme religieux et se perdre finalement d'un point de vue religieux. Qu'en pensez-vous, vous qui connaissez bien la situation en Afrique et l'impact négatif sur les territoires d'Afrique du Nord, mais d'Afrique au total?
C'est dans cette miroir qui se brise enfin. C'est la complicité étroite entre la branche politique des islamistes radicaux et la branche militaire. Il y a aujourd'hui une internationale frériste et une internationale djihadiste. Toutes les deux ont le même marin, c'est la Turquie du Erdogan. C'est le miroir qui se brise et c'est en même temps la stratégie du printemps arabe qui est révélée au grand jour. Depuis la fin de 2010, les Américains ont proposé l'émergence justement de cet islamisme politique appuyé sur le djihadisme pour réussir leur projet géopolitique. Ils ont brisé la Libye de Kadhafi, ils ont brisé la Syrie et ils ont tenté de le faire en Algérie et dans toute l'Afrique. Ça échoue aujourd'hui. La deuxième question qui se pose, c'est la question du retour des familles de djihadistes, ce qu'on appelle les femmes qui ont fait le djihadisme dans tout l'Occident, mais aussi dans l'Afrique du Nord et dans plusieurs pays africains. Doit-on les faire revenir avec le danger politique qu'elles représentent pour leur pays?
Merci, monsieur Luc Michel. Donc, la situation est assez nette en Tunisie depuis que le nouveau président tunisien est arrivé au pouvoir. Il a cherché à changer beaucoup de choses, notamment arrêter ou stopper ou freiner la forme de lobbyisme qu'on retrouve aux États-Unis. Il a essayé donc d'arranger les choses en changeant la Constitution, en essayant également de remodeler la situation politique tunisienne. Et aujourd'hui, c'est un pas donc vers un changement vraiment notoire. Déjà, avec son rapprochement avec l'Algérie, c'était un pas notoire. Ça serait quoi le pas supplémentaire que la Tunisie serait prête à faire dans cette situation de changement?
Le seul retour daté surtout à la Tunisie qui échappe aux griffes américaines. Vous savez qu'en 2011, ce sont les Américains, de l'aveu de la ministre française à Lyon-Marie, ce sont les Américains qui ont tout pris en main. Ils ont imposé des régimes pro-américains, anti-arabes et notamment syriens et anti-libyens. Ils ont établi des bases secrètes aux frontières de l'Algérie. Et pendant 10 ans, ils ont fait ce qu'ils voulaient en Tunisie. Aujourd'hui, avec le nouveau président et le changement de constitution, c'est la Tunisie qui échappe aux griffes américaines. Et on comprend la colère du State Department américain vis-à-vis de la nouvelle constitution qui a été très durement attaquée par les Américains. C'est aujourd'hui un pays qui échappe aux griffes du printemps arabe, qui était en fait un hiver glacial pour tous les peuples d'Afrique du Nord et les peuples africains.
Merci, M. Luc Michel. Madame Essamidani, qu'est-ce que vous pensez, donc, quand j'exprime le mot lobbyisme, parce que même si c'est un lobbyisme pas économique, mais on va dire des institutions internationales, ça reste du lobbyisme, leur manière d'agir est sous forme de lobbyisme. Est-ce que le lobbyisme va être moins fort au Moyen-Orient et en Méditerranée? Est-ce qu'il y aura une manière, donc, pour les pays comme la Syrie, la Tunisie ou même le Maroc, de pouvoir se protéger et finalement d'être plus indépendants?
En fait, effectivement, c'est une politique systématique des frères musulmans qui est d'envahir l'ensemble des institutions, l'ensemble des directions du pays, les ministères, le Parlement, comme on a vu en Tunisie, c'était le Parlement, le chef du Parlement, les organisations sociales, etc. Ils sont partout très influent et il se propage en fait dans ces organisations de manière à ce qu'ils aient effectivement ils aient une grosse influence sur la masse des gens et sur les médias aussi. En fait, hein, là, le fait, je salue fortement Raïs Saïed, le nouveau président, le président tunisien, d'avoir mené cette action, en fait, fort du soutien populaire, d'avoir mené cette action contre leur lobbyisme. Et il a osé proposer un changement de constitution. Il a osé bloquer effectivement l'Assemblée nationale et qui était complètement dirigée par les frères musulmans et gangrénée par eux. Et il a mené toute une action en fait via la rue, via le peuple, contre les frères musulmans. Qui d'ailleurs, dont l'historique est riche d'histoires de corruption, de financement par l'étranger, d'assassinats politiques. Je voudrais rappeler l'assassinat de Chakri Belaïd et Mohamed El Brahmi, qui sont deux leaders politiques en fait de gauche qui étaient opposés à pas seulement au terrorisme, mais opposés à Ennahda. Et qui était pour le retour de la Tunisie à son rôle arabe et donc de relations étroites avec la Syrie et avec la Palestine. Ils ont été assassinés par les frères musulmans, manifestement, et sur lesquels, d'ailleurs, il y a eu toujours le positionnement et le lobbyisme des frères musulmans. Il y a toujours eu une diversion quant à leur arrestation, quant à leur traduction devant la justice. Donc maintenant, effectivement, tous ces dossiers vont être ouverts. Le dossier du terrorisme, le dossier du financement par l'étranger, le dossier de la pénétration de l'ensemble des organisations. Des organisations de masse et donc on espère quand même qu'ils vont avoir un peu les ailes coupées. Ceci dit, je rappelle quand même que Ghannouchi, juste le lendemain de la réunion de l'Assemblée nationale il y a plusieurs années, il a volé en Turquie pour prévenir Erdogan. Donc, en fait, ils sont tous les deux très liés et fortement soutenus par les pays de l'OTAN. Il faut quand même, ce n'est pas inutile de le dire, il est important de dire que les frères musulmans sont le pilier sur lequel s'appuie l'OTAN pour mettre en difficulté l'ensemble des pays qui s'opposent à la politique de l'hégémonisme américain. Et qui s'opposent justement et qui sont qui mènent une politique plutôt unitaire, d'unité arabe et d'indépendance et de souveraineté nationale. De là, on peut dire que ce n'est pas un hasard que l'ensemble des pays qui ont été attaqués par le prétendu printemps arabe, c'était les pays qui étaient avancer sur la question de la Palestine, c'était les pays laïcs, c'était les pays qui s'opposaient à l'impérialisme, c'était les pays qui refusent tous le diktat américain. Ils ont tous été détruits, donc je rappelle la Syrie, la Libye, l'Irak aussi, qui était un véritable soutien aux Palestiniens. En fait, tout ceci montre que les frères musulmans sont effectivement sur la voie, j'espère, du déclin, mais ce sont quand même les fauteurs de troubles dans la région. Je rappelle aussi que ce mouvement des frères musulmans a été créé en 1938 par les Britanniques, alors qu'il y avait des mouvements d'indépendance des pays arabes qui commençaient. Donc, ils ont créé effectivement ce mouvement des frères musulmans et à l'échelle de l'ensemble des pays arabes où il y a une représentation dans chacun des pays ou une partie des frères musulmans en Égypte, en Syrie, et au Liban et en Tunisie et ailleurs. Aujourd'hui, ils sont sur la défensive, je l'espère, mais en tout cas en Syrie, tous les troubles qui ont été fomentés en 1982 déjà en Syrie, les attaques terroristes, on appelle les attaques de Hamas, etc., ont été fomentées par les frères musulmans. Et la deuxième phase a été l'attaque terroriste en 2011, depuis 2011, donc depuis 10 ans.
Merci,
jusqu'à
Daniel.
Présent. 11-12 en fait, depuis 10 ans, la Syrie est en but à des attaques terroristes originaires du mouvement des frères musulmans soutenus par eux. Alors, soutenus jusqu'à aujourd'hui, je continue à dire, ils sont soutenus par la Turquie à Idlib, ils occupent Idlib et ils sont soutenus par la Turquie et soutenus et pas seulement par la Turquie, mais aussi par l'ensemble des forces de renseignement des pays de l'OTAN.
Merci, donc, Madame Midani. Je vous remercie. Monsieur Luc Michel, un mot donc sur le fait que ce soit l'OTAN directement en Tunisie qui soit réellement attaqué, puisque malheureusement l'OTAN est en Tunisie présent. Il y a également l'influence de la Turquie qui est également membre de l'OTAN. Alors en effet, cette semaine, non seulement c'est un coup contre le terrorisme et l'embrigadement terroriste, mais c'est également un coup contre l'influence de l'OTAN.
Écoutez, les frères musulmans, c'est un siècle de trahison du nationalisme révolutionnaire arabe. Et tout a commencé, non pas avec les Britanniques, mais avec le Troisième Reich nazi. Les nazis ont commencé à collaborer dans les années 20 avec les frères musulmans pour combattre l'Union soviétique à l'époque. Ce qui s'est continué jusqu'au début du XXIe siècle, en Tchétchénie, dans le Daghestan et dans le Caucase. La principale centre des frères musulmans, c'est la mosquée située à Munich. Elle a été offerte en 1938 par Hitler à Albana lors de Tariq Ramadan. En 1945, lorsque les services secrets nazis sont passés sous le contrôle des Américains, les frères musulmans sont passés au service de l'impérial israélien. Ils ont combattu Nasser. Ils ont combattu Hafez et l'Assad, ils ont combattu Bachir et l'Assad, ils ont combattu les bases irakiennes et syriennes. Et partout, ils ont fait la politique du colonialisme occidental. Aujourd'hui, ils sont la principale carte, effectivement, de l'OTAN via la Turquie. En 2019, la Turquie a tenté de reprendre le contrôle de la Libye pour le compte des Américains, alors que depuis 10 ans, elle occupait déjà toute une partie de la Syrie. Depuis cette époque-là, les Américains tentent de remplacer les Français en Afrique du Nord et en Afrique noire par les Turcs. Sous prétexte de combat anti-impérialiste, les Turcs, évidemment, interviennent partout où la Russie intervient dans un pays africain, proposant leurs services, leurs armements, une assistance militaire. C'est un cancer qui ronge tout l'Afrique et tout le Proche-Orient et la Méditerranée.
Merci. Alors, est-ce que l'OTAN va être moins influente en Tunisie? Est-ce que la Tunisie va pouvoir avoir sa propre géopolitique? Qu'en pensez-vous, M. Luc Michel?
Moi, je pense que les Américains sont en train de perdre pied. Mais c'est un effet général qui concerne tout le Maghreb. Il y a quelques semaines, l'hebdomadaire Le Bois à Paris parlait de l'influence de la Russie au Maghreb, il disait bon baiser de Russie. L'arrivée de la Russie en Afrique du Nord comme en Afrique noire est l'œuvre de l'oxygène géopolitique et la possibilité de choisir aux dirigeants africains. Non seulement l'Algérie est le principal allié en Méditerranée occidentale de la Russie, mais maintenant la Tunisie est en train d'échapper des griffes américaines et même le Maroc. On a vu du dossier ukrainien, que le Maroc avait refusé de participer à la condamnation et aux sanctions contre la Russie. D'ailleurs, depuis de nombreuses semaines maintenant, le Maroc est quotidiennement en but à la déstabilisation diverse de l'impérialisme américain. Donc il faut se réjouir de voir l'OTAN et les Américains, parce que l'OTAN n'a pas d'existence. L'OTAN, c'est le bras armé politico-militaire des Américains qui leur permet l'assujettissement de l'Europe occidentale. Donc, les États-Unis vont perdre leur influence et je crois que c'est une perte définitive.
Merci, Monsieur Luc Michel. Merci, Madame Aïssa Midani, pour votre présence aujourd'hui et votre partage de connaissances. C'est ici donc que le débat se finit. On rappelle, le sujet était la Tunisie, la situation terroriste et le jugement des gens qui ont manipulé les jeunes en Tunisie pendant l'époque où Daesh était extrêmement forte en Syrie. Nous, on vous remercie de nous avoir regardés. On vous dit à la prochaine fois pour un autre sujet du débat.
De l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 21e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. Chaque fois que vous voyez Dieu, vous envoyez ses bénédictions les unes après les autres, alors que vous êtes occupé à lui désobéir, méfiez-vous de lui et prenez garde que son lourd châtiment ne vous attende. Dans cette maxime de la voix de l'éloquence du vénéré imam Ali béni soit-il, il est dit que le péché est une privation de la grâce divine. Celui qui profite des bénédictions du ciel et continue pourtant à commettre des péchés doit prendre garde, car il risque de se priver de la grâce du Seigneur et il mériterait un lourd châtiment en raison de sa désobéissance à Dieu. Péché contre le Seigneur requiert de l'audace de la part de l'esclave qui a été créé et qui est complètement dépendant de son maître pour toute chose. Malheureusement, souvent l'être humain ose pécher et emprunte la voie qui lui a été interdite. Dans sa sagesse et son amour pour sa créature, le Seigneur garde une porte ouverte pour lui, la porte du repentir et du retour vers lui. Un pécheur ne doit jamais désespérer. S'il est sincère dans ses remords et s'il cherche le pardon, Dieu l'acceptera de nouveau dans les pans de sa miséricorde. Dans le noble Coran, Dieu dit que certains pécheurs ne se tournent pas vers lui afin de se repentir après avoir commis des péchés, alors que Dieu est pardonneur et il est tout miséricordieux. Que nous empêche-t-il de chercher le pardon alors que Dieu nous l'a promis? Que nous empêche-t-il d'atteindre ce prix tant convoité tout en sachant que nous en avons grandement besoin. Il semble si étrange que nous soyons invités à user d'une porte comportant tant de bienfaits, et pourtant nous refusons toujours d'y entrer. Les croyants ont besoin de se repentir fréquemment. La recherche perpétuelle du pardon est une bonne attitude à cultiver. Le vénéré prophète avait l'habitude de demander pardon chaque jour, après chaque rassemblement, à la fin de chaque prière, avant de dormir et à tout moment. Il nous a montré combien il était important de revenir vers le Seigneur constamment. Dans les versets 50 et 51 de la sourate Al-Kahf du noble Coran, nous lisons « Et je n'ai pas pris comme aide ceux qui égarent. » Ces versets coraniques condamnent ceux qui prennent Satan et les siens comme protecteurs à la place de Dieu. Ils ne jouent aucun rôle dans le processus de création et ne sont dignes de rien. L'idée de suivre le diable ou les personnes sataniques va à l'encontre de la sagesse. Satan est un ennemi déclaré qui a juré d'égarer les êtres humains et œuvre pour provoquer leur perte. Se lier d'amitié avec une telle créature et la suivre est une folie de la part de l'être humain. Dans ces versets du noble Coran, Dieu dit qu'il ne prend pas l'aide des êtres démoniaques pour faire fonctionner les affaires de l'univers de la création. Les assistants ici ne font pas référence aux aides sans lesquelles le travail ne peut être fait, car Dieu est libre de tout besoin. Il s'agit des travailleurs par lesquels l'œuvre de Dieu est accomplie. Cela va à l'encontre de la raison qu'un système basé sur la droiture et le progrès prenne les êtres démoniaques comme travailleurs en son sein. Cela serait la négation de l'objectif du système. Ainsi, selon la tradition divine, les mauvais qui égarent les autres ne font pas partie de son équipe de travailleurs. Les hadiths rapportent que la personne chanceuse sera celle qui, lorsqu'elle ouvrira son livre des actions, le jour du jugement dernier, trouvera sous chaque péché qu'elle aura commis un cachet de pardon. Deux personnes peuvent avoir les mêmes actions à leur compte, tout en ayant des rangs différents le jour du jugement, simplement parce que l'une d'entre elles aura cherché le pardon constamment au cours de sa vie. Nos péchés et erreurs, nos mauvaises pensées, notre insouciance, notre oubli de Dieu et de notre objectif de la vie, même pour un court laps de temps, tout ceci laisse une couche de poussière sur le cœur des êtres humains. Chercher le pardon permet de le nettoyer et aide à éviter un assombrissement progressif ou le durcissement du cœur. Tout comme vous nettoyez votre corps, votre maison, vos biens, nettoyez aussi votre cœur en effectuant le repentir quotidiennement.
Thank you.